Quand les Bouddhas Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Om Marum. Nous continuons ce soir l'étude de la voie du Bouddha et particulièrement du Vajrayana, la voie adamantine, la voie initiatique. Nous avions commencé, nous nous situons dans la troisième section, la voie de la transmutation, la voie initiatique, le Vajrayana. Nous avons, lors de notre dernière rencontre, discuté les spécificités du Vajrayana et nous allons ce soir aborder la section suivante, intitulé « L'enseignement secret ». Le Vajrayana est un enseignement secret, ou au moins un enseignement confidentiel. C'est une voie initiatique, initiatique pour les personnes qui ont reçu l'initiation, les personnes qui ont été introduites à la pratique dont il s'agit, qui en ont reçu la transmission, les instructions, les explications. Alors, il est important de discuter cette notion d'enseignement secret. Ça n'est pas un enseignement secret pour cacher quelque chose. Et le Bouddha lui-même dit n'avoir rien gardé dans sa main de secret et d'avoir présenté la réalité et l'enseignement de façon ouverte, sans rien retenir ni dissimuler. Donc, il ne s'agit pas de faire des secrets, et encore moins qu'il y ait quelque chose à cacher. Mais nous nous situons dans une approche méthodologique qui, pour une bonne transmission des moyens de réalisation particuliers qui sont ceux du Vajrayana, les yoga symbolique, yoga énergétique. La transmission de ces méthodes particulières nécessite des prérequis, nécessite des préparations, nécessite une certaine compréhension, une certaine maturité, en l'absence desquelles il y a de nombreux problèmes, de nombreuses difficultés, de nombreuses déviations susceptibles d'arriver. Et ça n'est pas bon, les déviations ne sont pas bonnes, ni pour ceux à qui cela arrive, qui s'égarent, ni pour l'enseignement d'une façon générale. Pour bien comprendre le Vajrayana, il est nécessaire d'avoir déjà les bases du Mahayana, la voie universelle, la compréhension et l'expérience de la bonté, de la bienveillance, de la compassion, bodhicitta relatif, et aussi l'expérience de l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur et la compréhension de l'interdépendance et quelque chose aussi de la non-dualité. Et c'est sur ces prémices, sur ces bases que l'on peut bien aborder le Vajrayana. Donc, l'enseignement initiatique qui est gardé confidentielle pour ceux qui n'ont pas reçu ou qui n'ont pas les préparations, non pas pour dissimuler, mais pour, en termes de méthode, éviter qu'il y ait des ratés. Qu'il y ait des ratés. D'autant que si l'on aborde le Vajrayana sans avoir ses prémices, cette introduction qui permet de bien comprendre ce dont il s'agit, on peut développer toutes sortes de conceptions erronées, on peut avoir toutes sortes de projections et de conceptions erronées qui fassent rejeter par incompréhension cet enseignement, ce qui serait la pire chose, se fermant par là même à la possibilité de ses bienfaits et d'entrer dans sa pratique. Donc il y a une question de discernement dans la transmission du Vajrayana et de réserve pour que sa transmission soit faite à bon escient, au bon moment, et par là même éviter des problèmes. D'une façon générale, ne dit Vajradhara qu'à Laurent Junkintyam, les Bouddhas enseignent le Dharma conformément à l'esprit de leurs disciples. Très important. Toujours enseigner conformément à l'esprit de l'auditeur. À chacun selon ce qui est utile. À chacun selon sa réceptivité, sa mentalité, sa compréhension. En tibétain, on dit « quand la candule ». Ils transmettent divers enseignements qui sont des antidotes aux 84 000 types de passions pouvant toucher l'esprit des vivants. 84 000 types d'illusions et de passions, et conséquemment aussi 84 000 types d'enseignements. C'est ce qu'exprime aussi le stupa, le grand stupa d'Avalon, qui est le stupa de l'enseignement, le stupa aux 108 portes. 108 étant un nombre circulaire qui exprime 108 façons, c'est-à-dire un nombre illimité de façons d'entrer dans la voie, d'entrer dans le dharma. Les Bouddhas enseignent conformément à l'esprit de leurs disciples différentes voies et différentes façons d'entrer en enseignement. Tous les Bouddhas n'enseignent pas le Vajrayana. Par contre, le Bouddha de notre époque, Sakyamuni, dans son extrême compassion, a donné ses instructions particulièrement profonde, rapide et efficace. Nous en avons discuté précédemment. Le Vajrayana est l'aboutissement ultime des enseignements du Bouddha. Il y a dans l'enseignement du Bouddha cette perspective des trois yanas, avec la voie de libération personnelle, la voie universelle et la voie initiatique. Et le Vajrayana est l'aboutissement ou l'expression la plus accomplie des enseignements du Bouddha, avec les méthodes et la méthodologie particulière qui est la sienne et qui permet, surtout en notre époque, un éveil réel et rapide. Il est donc l'aboutissement ultime des enseignements du Bouddha, extrêmement précieux, et nous sommes fortunés de l'avoir rencontré. Mais il est facile de le mal comprendre, ce qui peut nous amener à commettre de grandes fautes qui produisent des existences misérables dans les états infernaux ou animaux. Il est donc très dangereux. Le Vajrayana est un outil efficace, un outil puissant, mais comme tous les outils puissants, s'il est mal utilisé, il peut être dangereux et il peut blesser. C'est pourquoi il est généralement l'enseignement secret. Et dans ses pratiques les plus essentielles, il n'est transmis qu'oralement et, lorsque le moment est venu, par le maître à son disciple. Et c'est dans la voie initiatique. La voie du Vajrayana a ceci de particulier qu'elle ne demande pas de rejeter quoi que ce soit, mais simplement de transmuter notre esprit et ses expériences en reconnaissant leur nature essentielle. C'est la reconnaissance, l'apprentissage de la reconnaissance de la nature de l'expérience qui opère la transmutation. C'est ainsi une voie de transformation ou de transmutation de ce qui est impur en ce qui est pur. C'est ce qui fait sa rapidité et sa facilité. Transmutation de l'énergie, une alchimie de l'énergie cognitive, de l'énergie émotionnelle qui se trouve transmutée de son état impur dualiste en son état pur non duel. Le Vajrayana ne soulève pas de grandes difficultés et ne requiert pas d'austérité particulière, à tel point que, pour un être disposant de facultés vives et d'une grande intelligence, il serait tout à fait possible de le pratiquer et de le réaliser au sein même de son activité ordinaire. Donc, le Vajrayana est une pratique, effectivement, que l'on accomplit au sein de son activité ordinaire et qui permet d'arriver à l'éveil, à la réalisation dans son activité ordinaire, quelle qu'elle soit, familiale, professionnelle. L'exemple célèbre nous en est donné par les 84 Mahasiddhas qui arrivèrent à l'éveil, pratiquant le Vajrayana, qui étant forgeron, qui étant roi, qui étant berger, qui étant ermite, dans toutes les situations, et il en est nombre qui firent des choses même curieuses ou tout à fait communes, mais qui néanmoins, dans la voie du Vajrayana et de sa transmutation, en leur activité ordinaire, arrivèrent au parfait éveil. À cette fin, les tenants du Vajrayana utilisent la vision sacrée dans laquelle ils reconnaissent que ce monde où nous nous trouvons est déjà en fait fondamentalement pur. C'est déjà un champ pur, une sphère où tous les Bouddhas et Bodhisattvas peuvent être vus et le Dharma naturellement entendu. La vision sacrée, c'est un point fondamental du Vajrayana, qui est dans la vision et dans les projections qui sont toujours dans la vision duelle, développer une vision sacrée ou une vision pure. Exemple, pour un pratiquant du sadhana de Chenrezig, c'est voir les vivants comme Chenrezig. Cette vision sacrée. Voir la nature de chaque vivant comme étant Chenrezig. Voir Chenrezig au cœur de chaque vivant. Et avec chacun dans les relations que l'on entretient, d'avoir une relation de Bouddha à Bouddha, de Chenrezig à Chenrezig, de cœur à cœur. Et ou encore voir le monde extérieur comme le domaine d'éveil, comme le champ pur. Donc, plutôt que de rejeter ou d'abandonner, il y a cette vision pure qui transmute et qui consacre notre vie, qui la consacre en une vie d'éveil. Alors, de même, je continue, il considère que les êtres sont fondamentalement des Bouddhas, c'est ce que je vous disais à l'instant, et qu'il n'y a pas de distinction réelle entre le samsara et le nirvana. Celle-ci ne tenant qu'aux apparences. La même expérience vécue sur un mode dualiste est une expérience samsarique, vécue sur un mode non dualiste est une expérience du nirvana. Une expérience éveillée. En toute situation, ce qui fait la différence entre samsara et nirvana est la présence ou l'absence de dualité. Dans la pratique, cette vision sacrée est telle que le monde est médité comme champ pur et les êtres comme des aspects du Bouddha. Ce que je viens de vous dire avec le sadhana de Chenrezig. Toutes les formes comme des aspects éveillés, tous les sons comme des mantras et le mental comme l'esprit pur. Forme, forme vide, son, son vide, mental, mental vide. Vide de saisie. Ce qui vous est familier dans le sadhana de Chenrezig, juste avant la récitation du mantra, indissociable des formes, sonorités et apparences vides, dit le texte. Le commentaire de ce dont il s'agit nous étant donné par Guru Rinpoche dans la prière d'autolibération que nous chantons aussi tous les soirs. La compréhension juste de cette vision et de cette pratique est délicate. Un point fondamental de l'abord du Vajrayana est de ne pas développer à son égard de vue fausse, d'avoir confiance en lui et de ne pas le rejeter. Alors, effectivement, sa compréhension étant délicate, on peut facilement ne pas bien comprendre, avoir des incompréhensions, des doutes. On peut développer des vues fausses, des conceptions erronées et aussi des propensions au rejet. Là, il y a un avertissement, attention, la compréhension est délicate et il est important de faire attention à ne pas développer de vues fausses qui amèneraient des rejets. C'est l'histoire de... On pourrait reprendre la métaphore de l'utilisation du transport aérien pour utiliser l'avion. Il est important de ne pas développer de vue fausse par rapport à l'aéronautique. Le transport aérien est très utile, efficace, ça marche bien. On ne comprend pas tout. On ne comprend pas les principes de tout ce qui fait fonctionner un Airbus, etc. Mais si on développe des conceptions erronées, oh, c'est des trucs qui se plantent tout le temps, on rejetterait ce mode de locomotion, ce qui serait dommage. Donc, il est important de ne pas développer de conceptions erronées amenant au rejet. Il y a certainement parmi nous des personnes très différentes. Certaines avaient des capacités spirituelles très vives et d'une grande intelligence, et d'autres moins réceptives. Certaines ont déjà une bonne connaissance du dharma, d'autres l'ont peu étudié. Enseigner les moyens du Vajrayana à une personne qui n'est pas prête à les recevoir, qui n'a pas la préparation nécessaire, car elle n'a pas approfondi suffisamment sa connaissance et son expérience du dharma, risquerait de faire naître en son esprit des vues fausses, ou pire encore, de provoquer un sentiment de rejet. C'est pourquoi le Vajrayana ne peut être abordé de façon juste que sur des bases solides, constituées par la compréhension et les pratiques du Hinayana et du Mahayana, de la voie de la libération personnelle et de la voie universelle. Cela dit, dans cette voie des moyens qu'est le Vajrayana, il y a beaucoup de niveaux d'enseignement et de compréhension. Le simple fait d'exposer quelques aspects des premiers niveaux ne présente pas de danger véritable et peut même s'avérer très bénéfique. C'est pourquoi une pratique telle que la pratique de Chenrezig est enseignée de façon relativement libre et ouverte et ne présente pas avec néanmoins quand même une certaine préparation de véritables dangers. Bien, voilà cette section, un moment de contemplation. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonne soirée, que tout soit propice. À bientôt. Et au revoir.